BFM Business. Good evening business. La grande interview, Edwige Chevriot.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. J'ai l'honneur, l'avantage de recevoir le chef doublement étoilé, Thierry Marx. Bonsoir Thierry Marx.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Beaucoup d'actualités à voir, un climat social qui se tend. Est-ce que, comment ça se passe dans la restauration? Comment est-ce que vous voyez les choses, vous qui êtes un bon observateur avec vos nombreuses activités, parce que vous êtes devenu un chef un peu multicarte et qu'on a envie de savoir votre regard sur cette crise sociale qui est en train de monter, l'impact que ça a sur la restauration. Et si je vous pose ça comme question, c'est que vous êtes un peu d'une manière un peu étonnante, ou du moins ça m'a étonné, vous êtes candidat à la présidence du syndicat de l'UMI, donc qui regroupe tout l'ensemble des cafés, restaurants, des hôteliers et des discothèques. Et vous êtes candidat, ce qui pour moi est un peu étonnant parce que je vous voyais dans des sphères avec des étoiles. Mmh. Et là, quand on dirige un syndicat, surtout comme l'UMI, il va falloir aller se castagner. Vous allez tout nous raconter, mais d'abord, ce climat social qui s'étend, qui se détériore, l'appel à la grève générale, les dépôts des carburants qui sont bloqués. Comment est-ce que vous percevez ça ?
Toujours avec beaucoup d'inquiétude, parce qu'on est commerçant. Finalement, quand le climat social se tend, quand les grèves arrivent, bien évidemment, ça vide le cahier de réservation, ça met en situation difficile les touristes qui sont sur le sol français. Rien que pour venir tout à l'heure, on avait des clients à l'hôtel qui ne trouvaient pas de taxi parce que pénurie de carburant. Donc tout ça pénalise fortement le commerce de l'hôtellerie-restauration. Et évidemment, le professionnel et les professionnels ne voient pas ça forcément d'un bon œil.
Vous ressentez là depuis 10 jours l'impact que ça a, parce que Paris est plein. Je ne parle pas évidemment pour Paris. C'est plein de touristes, mais
ouais, non, on voit. Il y a beaucoup de touristes depuis le printemps. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de touristes américains. L'Europe est là. On voit arriver depuis cette Fashion Week l'Asie qui est revenue. Et donc on n'avait pas vraiment de soucis à se faire. Et puis là, avec le climat social effectivement qui se tend, le blocage du carburant, ça c'est vraiment un impact. Et notamment pour les hôteliers restaurateurs qui sont en ruralité, où là ils voient arriver des annulations fortes parce que les gens ont peur de manquer de carburant pour se déplacer.
Oui, c'est ça. Oui, donc là il y a vraiment un impact, donc c'est sur les réservations. Donc il faut savoir en plus qu'il y a les vacances de la Toussaint, donc
oui, il y a une secousse avec la grève, et puis ensuite les ondes qui suivent pénalisent durablement. C'est-à-dire que quand vous avez un chantier, vous n'êtes pas livré sur les matières premières parce que les camions sont bloqués, ne peuvent pas sortir, etc. etc. Donc tout le cycle d'une entreprise, qu'elle soit commerciale au niveau de la restauration, de l'hôtellerie-restauration ou d'autres commerces, eh bien on est pénalisé.
C'est une note quand même, la restauration, c'est une note de plus en plus salée, et pour cause, vous allez me dire, parce que on parle d'augmentation de salaire dans un instant, bien sûr, mais il y a aussi encore des pénuries d'approvisionnement, des hausses d'inflation. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une... Parce qu'on voit dans l'alimentation, est-ce que vous voyez certains en profitent, quoi ? Est-ce qu'il n'y a pas des profiteurs ?
On pourrait signaler l'huile l'été dernier. C'est-à-dire quand on a vu une pénurie d'huile, ça ne se justifiait pas. Absolument pas.
Ça continue, il y en a encore qui font pas de frites en nous disant « Ah ben non, ça coûte trop cher de faire les frites. »
Le stock d'huile avait été bloqué et certains se sont, on pourrait le dire, se sont sucrés, sur cette manière, en mettant tout sur le dos de la guerre en Ukraine. Donc la guerre en Ukraine, elle est terrifiante, mais elle a le dos large par moment, et effectivement, il faut y faire attention. Maintenant, le coût des matières premières, ça c'est une réalité, 50% sur le beurre, c'est beaucoup. Donc il faut s'adapter, bien évidemment, essayer de réduire l'offre aussi par moment, pour pas augmenter trop fortement les prix. On a réduit dans certains de nos restaurants, on est sur 3 entrées, 3 plats, 3 desserts, avoir une offre plus courte, plus efficace, plus près du produit, des circuits beaucoup plus courts, mais ça suffira pas. Il va falloir s'adapter et puis faire en sorte que les prix ne flambent pas de trop.
Par exemple, la brasserie et la Tour Eiffel, vous avez augmenté vos prix de combien ?
On n'a rien augmenté pour l'instant, on a réduit l'offre. On est sur 3 entrées, 3 places qu'on avait au départ. D'ailleurs, on voulait vraiment travailler sur des circuits courts, des produits à moins de 200 km de Paris. Donc on est resté dans cette offre-là. Aujourd'hui, on a un menu à déjeuner qui est à 39 euros, qui est parfaitement acceptable pour la qualité de la prestation que nous faisons.
Et au mandarin, donc là, évidemment, on n'est pas à 39 euros, on est à 39 euros l'entrée, et encore ?
Oui, mais on a quand même un menu à 55 euros à la brasserie, et après, on a fermé le service du déjeuner sur le restaurant gastronomique, et on s'est concentré sur un ticket, certes plus élevé, sur le restaurant gastronomique le soir, où les gens ont un peu plus de temps, et laissent un peu plus aller à se faire plaisir.
Il y a déjà des mesures donc assez drastiques, quand même, des réductions de coûts.
Elles étaient dans l'antichambre de ces crises, c'est-à-dire qu'on a une crise sanitaire qui a été d'une brutalité absolue pour l'ensemble de la profession. Et on apprend des crises, chacun le sait, et finalement, on s'est adapté, on s'est dit, peut-être qu'on était allé trop loin dans l'offre, trop loin dans un nombre de choses, et on est venu à des choses qui sont quand même, des propositions qui sont quand même beaucoup plus rationnelles.
La question de la rémunération, c'est l'objet justement de ce bras de fer qui existe entre la CGT et le gouvernement et Total. Je ne sais pas si vous avez vu, tiens, Total qui fait une proposition 1 000 euros exceptionnelle, une prime de 1 000 euros plus 6% d'augmentation. Est-ce que vous dites, c'est déjà beaucoup, nous, on ne peut pas donner ça ?
Non. C'est vrai qu'on a fait des augmentations de salaire, c'est vrai. Puis à un moment donné, vous êtes tenu par les résultats de l'entreprise. Donc à un moment donné, tout ça c'est une adéquation, et effectivement, augmenter les salaires, on l'a fait pour retrouver de l'attractivité et faire revenir dans nos métiers un peu plus de personnes, mais à un moment donné, on est limité par les résultats de l'entreprise qui font qu'à un moment donné, vous ne pouvez redonner que l'argent que vous gagnez.
Ouais, donc quoi, vous avez augmenté par exemple chez vous, et après on verra au niveau national, puisque vous êtes candidat.
On a augmenté de 10%, et je pense qu'il faut encore augmenter un peu plus les salaires. Redonner l'attractivité, pas simplement sur les salaires, mais par exemple sur une protection santé, sérieuse, pour que les personnes qui sont dans nos métiers aient une protection solide, et puis replanifier nos métiers. Est-ce qu'on continue avec des coupures ? Est-ce qu'on paye un peu mieux les heures supplémentaires parce qu'elles seraient encore un peu plus défiscalisables ? Il y a un tas de sujets à mettre sur la table, et notamment de sujets à proposer aux régaliens.
Oui, c'est ce qu'on y arrive, Thierry Marc, bien sûr. Juste, est-ce qu'il y a toujours une pénurie de talents
pour, il y a toujours une pénurie.
Pour aller chez vous, une pénurie même de personnel enfin.
Il y a une pénurie de talent, oui, parce que la profession le dit encore, il nous manque 200 000 postes un petit peu pour couvrir tous les besoins, mais ça s'est quand même résorbé. Mais là, la crise arrivant, on voit bien qu'une crise, là, une tension arrive sociale, donc si on diminue notre activité, il va falloir aussi diminuer nos collaborateurs, ce qui est un peu inquiétant. Mais globalement, on manque toujours de talent dans l'hôtellerie et restauration.
Vous avez créé, entre autres, Cuisine Mode d'Emploi, c'est une manière de faire revenir des jeunes qui étaient loin de l'emploi, les faire revenir dans l'emploi.
Mais
est-ce qu'il y a toujours autant de candidats ?
On a créé Cuisine Mode d'Emploi il y a 10 ans, 10 ans, 10 écoles. 6 000 personnes formées, 90% de retour à l'emploi. On a formé des jeunes et des moins jeunes. Et on n'a pas formé dans l'idée de dire on va remettre les gens à l'emploi. On a essayé de proposer, et on propose, un retour à un projet métier. Oui. Qui vous amène à l'emploi. C'est pas la même chose.
Pas la même démarche, mais j'ai envie de dire quelque part, le résultat est quand même.
Je suis désolé de toujours d'avoir à l'affirmer, mais au XXe siècle, on disait on va créer des emplois. Mais aujourd'hui, il n'y a plus une personne pour prendre un emploi par défaut. On veut un projet. Et quand on forme rapidement des personnes dans un projet, ils retournent à l'emploi parce que c'est leur décision. Mais on ne peut plus proposer à des personnes qui étaient des fois en difficulté, éloignées de l'emploi, en précarité, de leur dire il faut absolument reprendre un job à tout prix. Non, ils ne le feront pas. Ils le feront que si c'est un projet métier, un projet qui va les épanouir.
Alors, vous êtes candidat donc, pour prendre la présidence de l'UMIH, donc c'est l'Union des métiers de l'industrie hôtelière, des cafés, des restaurants. Au total, il y a combien de cafés, restaurants, hôtels, discothèques en France ?
Il y a
200 000 à peu près ?
Il y a 17 500 hôtels, 175 000 restaurants, il y a 6 000 lieux de divertissement dits lieux de nuit, 35 000 bistrots. Aujourd'hui, ça pèse 84 milliards d'euros, c'est 7% du PIB, et c'est plus d'un million de collaborateurs dans ce métier. Donc, il faut avoir une force syndicale suffisamment construite pour pouvoir dire, attendez, on n'est pas non plus des gens qui râlons tout le temps et qui n'avons pas envie d'être constructifs vis-à-vis de l'État.
Et en fait, il y en a combien qui ont vraiment mis la clé sous la porte après cette crise sanitaire ?
J'ai pas les chiffres de ceux qui ont mis les clés sous la porte, mais ce qui m'inquiète, c'est pas tant ceux qui ont, hélas, perdu leur entreprise, c'est l'effet ciseau qui va arriver fin 2022-2023. L'effet ciseau, un, des remboursements PGE, de l'augmentation des coûts des matières premières et de l'augmentation de l'énergie qui va, de façon conjuguée, poser, mettre en difficulté un certain nombre d'entreprises.
Oui, il y a je crois à peu près un peu plus de 100 000, 121 000 entreprises du secteur qui ont souscrit un PGE, un plan garanti par l'État, pour plus de 2 milliards et demi. C'est quasiment une entreprise sur deux. 93% des hôtels, 50% des restaurants et 35% des cafés. Oui. C'est intéressant, on a presque mis les restaurants en premier.
Oui. On a été tenté par ce PGE parce qu'il y avait ce fait d'être démonétisé à une époque, ce qui était très anxiogène. On s'est pris ces PGE, mais de façon utile, finalement. On n'avait pas d'autre choix que de le faire. Et aujourd'hui, il faut les rembourser. Et arrive, dans l'effet entonnoir, finalement, cette montée des coûts de l'énergie et cette montée des coûts des matières premières. Donc, ça fait beaucoup pour pas envisager de replanifier le remboursement de ces PGE.
Alors, pourquoi êtes-vous candidat, Thierry Marx? Parce que je recevais aussi Stéphane Manigol, le patron du groupe Éclore, qui est lui aussi est candidat. Il y a en tout, il y a cinq couples, si j'ose dire, qui sont candidats à cette présidence de l'UIMH. On a l'impression que là, tous les coups sont permis. C'est un métier difficile, rugueux. Et qu'est-ce que vous allez apporter? Parce que vous êtes quand même un peu une icône, Thierry Marx.
Oui, non, c'est pas d'abord c'est pas Thierry Marx l'intérêt. Enfin, je vais pas parler à la troisième personne, mais d'abord c'est un tandem. Éric Abissera, ouais, qui est hôtelier, et je fais partie du monde de la restauration, bien que je travaille beaucoup avec l'hôtellerie. Donc c'est force de proposition. Un, il y a une évidence. J'ai parlé des PGE, mais il y a d'autres sujets brûlants qui vont arriver. Deux, il faut remettre en perspective ce métier.
Oui, mais moi, j'étais un adepte. Pourquoi vous ?
Oui, je vais vous dire pourquoi. Ouais. J'étais un adepte d'André Daguin. Moi, quand j'ai eu la chance de croiser André Daguin,
le mythique président de l'UMIH,
et on parlait de 70 000, 80 000 adhérents. Aujourd'hui, je fais un constat, à peine 35 000 adhérents. Et il y a une érosion qui continue. Donc, il faut remettre en perspective tous les enjeux de ce métier. L'impact social, formation professionnelle, mutuelle santé, tout ce qu'il y a à faire autour du social. Et ensuite, l'impact environnemental. On ne peut plus reculer sur le fait que nos établissements doivent vraiment passer cette barrière du HQE, haute qualité environnementale, pour aller vers un tourisme beaucoup plus vert. Avec probablement une demande de crédit d'impôt pour aller faire en sorte que ces entreprises puissent aller vers ce label vert. Donc il y a un enjeu pour le futur, pour l'avenir de cette profession. Si on se divise trop, il n'y aura plus de représentation syndicale dans ce métier, ou elle sera diverse comme ça, et on prendra chacun la parole à notre tour, sans avoir vraiment de résultats sérieux sur ce qu'il faut faire. Donc moi je pense que mon combat pour l'UMIH, il est de rassembler tout le monde, dans une seule et même voie, pour se dire on va vers demain, 2050, c'est pas si loin, il faut y aller.
Oui, mais en même temps, il se passe, je veux dire, entre le mandarin, le café du coin, la discothèque en rase campagne, je veux dire, il y a de tout dans ces 200 000 entreprises.
Mais il y a de tout avec la même volonté de produire une expérience client. Donc, c'est pas loin de mon métier. Peu importe à quel niveau nous travaillons, on peut effectivement travailler dans un bistrot. Moi, j'ai différents établissements. J'ai des brasseries et j'ai aussi un restaurant plus étoilé. J'ai des halls de dining, comme on dit. J'ai un tas de choses. Et je ne me sens pas déconsidéré quand je dois travailler dans un bistrot ou dans une brasserie ou dans un restaurant étoilé. Ça ne me gêne pas. Moi, ce qui compte, c'est pas qu'on parle de moi. Je suis pas en train de faire.
Mais c'est vous qui êtes candidat, donc.
Oui, mais j'entends que je suis candidat. Mais je veux qu'on parle de l'UMI. L'UMI, ça doit être un outil. Ça doit être un outil. C'est-à-dire que chaque personne qui compte monter un restaurant, monter un hôtel, ouvrir un hôtel, travailler dans un lieu de nuit, travailler dans un bistrot, devrait avoir le réflexe UMI pour se dire c'est l'outil qu'il me faut pour avancer dans ce métier et trouver les béquilles nécessaires quand j'ai besoin de béquilles pour avancer dans l'entreprise. Aujourd'hui, c'est plus le cas, on n'a plus le réflexe forcément UMI, or qu'il y a des équipes à l'UMI qui sont prêtes là. Et puis l'UMI ne communique pas assez, à mon avis, pour que la jeune génération qui arrive et qui comprend un peu ces enjeux, se retrouve dans l'UMI. Donc il faut se fédérer, rassembler et retrouver une force.
Est-ce que vous qui avez été, on sait, ben c'est presque un peu vos débuts en tous les cas médiatiques, à Top Chef bien sûr, est-ce que c'est une manière, vous voulez un peu prolonger cette expérience, parce que Top Chef ça a eu un rôle incroyable d'apprentissage pour tous les Français et tous les jeunes qui adorent et qui regardent l'émission, qui continuent à la regarder, qui adorent faire la cuisine. Vous, est-ce que ce que vous voulez faire, c'est donner envie en fait à des jeunes de devenir hôteliers, de monter leur entreprise? C'est ça que vous avez envie de donner comme signal?
Monter leur entreprise et démontrer et montrer qu'il y a énormément de diversité dans les métiers du tourisme. Nous, nous sommes 65% du revenu du tourisme. Et ça, c'est important. Et si on veut une planète plus verte, il faudra faire un tourisme plus vert. Donc l'attractivité aujourd'hui que nous devons montrer, pour démontrer un petit peu ces choses-là, pour avoir une attractivité vis-à-vis des jeunes restaurateurs, des jeunes hôteliers qui vont arriver et nous rejoindre, c'est de leur dire, venez dans ces métiers, on peut vous y aider, on peut vous aider à construire avec nous la restauration, l'hôtellerie-restauration de demain.
Qu'est-ce qu'il faut changer à votre avis? Parce qu'il faut un peu tout changer hein, si on veut se projeter. Il y a une approche très. Vous avez signé une tribune tiens, assez intéressante sur la sobriété positive dans l'alimentation. Vous dites l'industrie alimentaire s'est égarée. Donc il faut tout revoir, mais c'est un côté presque un peu idéaliste, non?
Mais il faut d'abord être un peu idéaliste. Il faut avoir cette forme de rêve, de se dire effectivement dans notre cuisine au quotidien, y compris dans nos restaurants, dans nos hôtels, l'industrie gagne petit à petit parce qu'on n'a plus le temps de former, parce qu'on a de moins en moins de temps de considérer cette transmission. Et donc, on voit l'industrie qui s'installe et qui normalise notre alimentation, qui normalise notre gastronomie et qui finit par normaliser notre industrie. Or que la France a un enjeu à défendre, qui est sa diversité. Et on voit bien, aujourd'hui, il y a une vraie attractivité pour le tourisme rural. Et est-ce qu'on est suffisamment équipés pour recevoir dans de bonnes conditions les touristes qui vont nous demander de les accueillir dans la région Centre, dans la région PACA.
Mais par exemple, l'accord, là, on voit bien que ça traîne parce que c'est comme les patrons, hein, l'UMI ou l'UMIH du reste. Il faut dire quoi, en fait? Parce que tout le monde, vous avez dit une fois l'UMIH, une autre fois vous dites l'UMI. J'ai envie de dire, déjà, il faut changer de nom, peut-être.
Là, c'est pas faux.
Ensuite, vous dites, il faut dire quoi?
Non, mais je pense que...
Il faut dire l'UMI ou l'UMIH?
Non, l'UMIH, c'est le nom d'origine, l'acronyme d'origine, bon. Ça me va très bien.
Il faut
pas de souci avec ça.
Il faut négocier des grilles salariales, il y a eu une pression très forte pour que, il y ait des accords qui soient trouvés. Du reste, on n'entend plus parler depuis le printemps. Ça a été vraiment définitivement signé ou pas, les accords?
Ah, mais ça n'a pas encore été signé, mais ça va.
Ah, toujours pas?
Non,
ouais, mais vous rendez compte, ça fait combien de temps?
Mais je l'entends. Et ouais.
Ça, c'est scandaleux à vos yeux ou pas?
Oui. Il faut aller vite. Il faut retrouver encore une fois de l'attractivité dans nos métiers. Elle passe par l'attractivité salariale, l'attractivité de formation, la protection santé que nous devons à nos collaborateurs. Tout ça en transparence. Et de montrer aussi que les gens qui sont hôteliers, restaurateurs, qui travaillent dans l'univers de l'UMIH ne sont pas des gens qui travaillent dans une opacité, qui ne seraient pas forcément des chefs d'entreprise respectables. Aujourd'hui, quand on pèse 1,3 million de salariés dans ce pays, ça compte un petit peu, sans compter les dom-toms. Et donc, il faut montrer qu'on est des gens respectueux, respectueux de l'environnement, respectueux du social, et il faut aller plus vite. C'est vrai qu'il faut aller plus vite et de façon plus efficace.
Quand je disais vous êtes un peu un idéaliste, en tous les cas, c'est ce que vous portez dans vos messages et puis ce que vous réalisez derrière, parce que vous êtes un homme d'affaires qu'on retrouve dans énormément de choses. Est-ce que, lorsque vous voyez qu'il y a plein de restaurants où vous retrouvez exactement les mêmes plats, parce qu'en fait, c'est des plats tout préparés qui sont achetés dans une grande surface que je ne citerai pas, il y a quand même certains métiers à réinventer, mais enfin, il y a aussi un peu d'honnêteté peut-être à remettre dedans.
Complètement, la transparence, un peu moins d'opacité dans nos métiers, démontrer les choses et puis remettre au cœur du sujet la formation professionnelle, parler d'une meilleure rémunération et d'un nouveau contrat de travail peut-être pour nos saisonniers. Aujourd'hui, on voit quand même 300 000 saisonniers l'été, 100 000 saisonniers l'hiver. Il faut là aussi amener de la formation professionnelle et puis une garantie salariale suffisante et une protection suffisante. Il y a énormément de chantiers à mettre en place. Il faut donc se regrouper et admettre que ces chantiers, il faut les... Impact social, impact environnemental, c'est non négligeable. Mais il faut aller de l'avant.
Il y a eu un grand débat, du reste, qui a été lancé ici par votre concurrent, dorénavant Stéphane Manigold, sur le fait d'avoir une mutuelle santé pour vos salariés. Il y a un accord qui a été signé avec une mutuelle par l'UMH. Lui dénonçait ce contrat en disant « mais il n'y a même pas eu d'appel d'offres, c'est beaucoup plus cher ». L'UMH, de son côté, répond « mais c'est comme une avancée sociale ». Et vous êtes où là-dedans, dans ce combat assez violent?
C'est un combat dur et là, pour le coup, c'est parce que c'est une liste concurrente, ça n'est pas moins un confrère. Et je pense que c'est projet contre projet. Et là, effectivement, manque de transparence, l'appel d'offres, il faut au moins 3 candidats dans un appel d'offres, c'est pas fait, opacité, donc on dénonce. Et c'est non, on n'y va pas comme ça. Et là, je suis tout à fait d'accord, parce qu'encore une fois, cette élection, elle porte quoi ? Des projets, projet contre projet. Et je pense qu'au moment venu, nous nous regrouperons pour faire fonctionner l'UMI peut-être un petit peu différemment. Mais opacité, c'est plus acceptable à l'UMIH.
Avant de vous reposer une question un peu plus sociétale, une question sur... Il y a Equipe Hôtel, le salon Equipe Hôtel, le célèbre salon Equipe Hôtel, qui se tient début novembre. Et on va parler, vous allez parler du restaurant des années 2030, où, paraît-il, on pourra avoir un hologramme qui nous indiquera notre place, on pourra avoir un exosquelette qui prendra la commande. Ça fascine et en même temps ça fait un peu peur parce qu'il y a un côté convivial quand même lorsqu'on va au restaurant, c'est assez important.
Mais je crois pas du tout à ça. Ça existe déjà d'abord.
Oui, enfin, pas beaucoup.
Dans cet avion, c'est pas courant, mais je pense qu'on va vers tout le contraire. On nous avait promis de manger avec des gélules, tout ça on sait le faire, mais ça nous intéresse pas. Ce qu'on veut, c'est retrouver de l'humain. On veut retrouver la nature. Et cette crise sanitaire a augmenté cela encore. Donc aujourd'hui, on veut vraiment avoir ce lien social entre les personnes qui vous servent, la main qui vous nourrit et le fait de se sentir accueilli dans un lieu et de reconnaître un petit peu les ingrédients qu'on va avoir à ingérer. Donc évidemment, les exosquelettes, ça existe déjà. Les hologrammes, on voit bien que c'est testé un petit peu partout. Mais entièrement d'accord, ça ne fera pas tous les restaurants. Ça pourrait être des restaurants d'expérience pour vivre une expérience. Mais on aime encore serrer la main et être reconnu dans un restaurant par un humain.
Plus une question dont vous n'y croyez pas. Plus une question sur vos activités, Thierry Marche. Je disais qu'on vous retrouve un peu, que vous êtes un peu multicarte, puisque on vous retrouve dans les bars de TGV Inouï. On vous retrouve dans une autre épicerie engagée en ligne qui s'appelle Omi et compagnie. Bref, on vous retrouve un peu partout, sachant que vous avez déjà des boulangeries, des écoles, des restaurants, etc. etc. Vous êtes devenu une marque, en fait, non ?
On peut mettre
une pancarte, tout le monde vous reconnaît,
je ne peux pas le définir comme ça. Il y a un type qui s'appelait Marx aussi et qui a vendu beaucoup plus de livres que moi. Je ne revendique pas des marques. D'abord, les écoles, c'est à but non lucratif et c'est peut-être le plus grand bonheur de ma vie de partager une compétence métier et de faire en sorte que les gens se l'approprient et y adhèrent. Et puis après, je suis comme tout le monde, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des opportunités, je les saisis quand elles me paraissent.
Il n'y en a pas trop.
Il n'y en a pas trop, bien sûr. Souvent, vous savez, il y a des affaires qui marchent, puis il y a des affaires qui ne marchent pas.
Ouais.
Et par moments, je tombe aussi sur des affaires qui ne marchent pas. Donc voilà.
Mais est-ce qu'on ne vous utilise pas trop?
Ça
peut être un peu le risque.
D'abord, ce qu'il faut reconnaître, c'est que ce n'est pas qu'on m'utilise, c'est qu'à chaque fois que je fais quelque chose, j'y mets un peu d'argent. Donc je considère que c'est une partie de mon entreprise. Et quand vous citez Omi, par exemple, voilà une épicerie en ligne, très pratique, vous êtes livré en vélo, avec des prix défiant toute concurrence, mais sourcé que chez des petits producteurs et des petites conserveries françaises. C'est vraiment le placard épicier pour la maison. Donc on a, quand ça a été créé, et avec Christian Georges, c'était formidable parce que c'est aujourd'hui une belle aventure.
Merci beaucoup Thierry Marx. Donc résultat des courses, le 27 octobre, vous reviendrez, on verra qui sera.
On verra le deuxième tour, si on est au deuxième tour.
Deuxième tour, merci beaucoup. Il y a forcément deux tours? Non, il peut avoir un seul tour. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Thierry Marx, donc le chef doublement étoilé, qui sera peut-être le président de l'UMI, peut-être, et qui changera de nom, on a bien compris. Tout de suite, Tech & Co avec François Sorel. Et évidemment, vous pouvez retrouver cette interview sur le podcast de BFM Business et le QR code pour ceux qui nous regardent à la télévision. Bonne soirée.
Good evening business. La grande interview.